C'est bon de nous retrouver. Ce matin, il y a vraiment un temps d'intimité avec Dieu. Et je crois que c'est vraiment l'interpellation de Dieu en ce moment. C'est « Viens dans ta chambre, ferme la porte et prends du temps et ton Père te le rendra. » Voilà. La semaine dernière, est-ce qu'il y en a qui se rappellent de quoi a-t-on parlé? Qu'est-ce qui était la parole? Qu'est-ce que vous avez retenu? Si s'il y avait une phrase ou deux phrases du message de Nadine qu'on voudrait se remémorer. Il est écrit. Amen, amen. C'était vraiment ça. C'était une interpellation, pas seulement de Nadine, mais de l'Esprit, pour que nous soyons offensifs dans la proclamation et la parole. Et ce matin, j'aimerais aller dans la continuation et j'aimerais vous parler de nos sept relations à la parole. Sept relations à la parole. Je ne sais pas si vous avez déjà réfléchi aux différentes relations de la parole. Ah, tu voulais enregistrer. Mais voilà, sept relations. Alors, on va faire un survol des sept, mais en affermir en particulier une. Voilà, les sept relations à la parole. Vous savez que nous sommes dans un réseau d'églises et qui a souligné ces deux choses, à la fois la notion de l'importance d'une vie charismatique dans l'esprit, et ça se voit dans l'intercession, dans les paroles reçues, on veut cultiver cette vie, et en même temps, cette vie fondée dans la parole. On veut la connaissance de la parole par l'esprit. Et j'aimerais qu'on réfléchisse, enfin, en tout cas moi j'ai médité, en tremplin du message de la semaine dernière, sur cette notion de parole et les sept relations différentes. Alors nous savons que c'est Jésus la parole, déjà, on va le revoir, mais vous savez que cette parole qui a créé le monde au début, Genèse 1, il a créé, il a dit et puis la chose arrive, eh bien Dieu a envoyé son fils, parole, et il a aussi, il est dit qu'après avoir à plusieurs fois parlé de différentes manières, Hébreux 1, parlé à nos pères les prophètes, Dieu dans ces derniers temps nous a parlé par le Fils, il l'a établi héritier de toutes choses, par lequel il a aussi créé le monde, et qui tend le reflet de sa gloire, l'empreinte de sa personne, soutenant toutes choses par sa parole puissante, il a fait la purification des péchés, s'est assis à la droite de la majesté dans les lieux très hauts. La parole de Jésus est venue pour restaurer et amener le salut sur le cosmos tout entier. C'est comme une deuxième vague. Une première vague, c'est la création du monde et la recréation pour chacun de nous. C'est cette parole de Jésus qui nous a recréés. D'ailleurs, on parle de miracles, de prodiges. J'aimerais qu'on se rappelle, je pense vraiment que le plus important des miracles, c'est cette rencontre qu'on a pu faire avec Dieu et cette nouvelle naissance et cette parole qui est rentré dans nos vies comme une semence et qui a tout bouleversé. Nous sommes recréés par cette parole de Jésus dans nos vies. Alors juste, donc on a parlé de la parole proclamée. Ça c'est la première relation à la parole qu'on peut souligner. L'importance de la proclamer, pas seulement de la lire, mais de la dire. Et de la dire à voix haute. Ça, c'est la première relation. Je ne vais pas revenir dessus. Écoutez le message. Il a été enregistré. Je crois qu'il est disponible sur le site. Voilà. Donc, Jésus a dit, les paroles que je vous dis sont esprit et vie. Donc, proclamez cette parole du Seigneur. Je rappelle qu'en croyant du cœur, c'est en croyant du cœur qu'on parvient à la justice, mais c'est en confessant de la bouche qu'on parvient au salut. C'est quand même intéressant. Le salut, ça nous parle, c'est sozo, hein, c'est la guérison justement, c'est la guérison totale, c'est le rétablissement de toute chose. Donc la justice, c'est juste réconciliation avec Dieu. Mais le salut, c'est la dimension de restauration globale. Et ça, il est dit clairement, c'est par la confession de la bouche que je parviens au salut. Il ne s'agit pas seulement du salut une fois avec Dieu, je rencontre Jésus, non. Il s'agit du plein salut qui est à l'œuvre aujourd'hui. Donc cette proclamation, vous voyez, elle est tellement importante. Et on, oh là là, ça va? Désolé, c'est bon. Donc voilà, rappelez-vous, à la fin du message de Nadine, le rappel de la parole de Deutéronome que j'avais vraiment eu à cœur de vous donner, « La parole est près de toi, dans ta bouche et dans ton cœur pour la faire ». Donc cette parole, dans notre bouche, et je rappelle le grand principe, elle est la porte d'entrée de notre cœur. Prenez cette parole de Dieu, nous dit l'apôtre Paul dans Éphésiens. Et j'aimerais rappeler, petite chose importante, que c'est le deuxième relation à la parole. La parole comme parole révélée. Donc, la parole comme parole proclamée, je proclame la parole, c'est une chose. Maintenant, ma relation à la parole, une relation à la parole révélée. Je prends l'exemple de l'apôtre Paul, c'est absolument inimaginable. C'était un juif, il a été au pied de Gamaliel, il connaissait les Écritures. Mais par contre, vous prenez par exemple l'épître aux Éphésiens, il l'a reçu de personne. Il l'a reçu par révélation, entièrement. Les armes du croyant, etc. C'était pas une tradition juive. Il a reçu la révélation de Dieu. Donc, c'est un homme au contact d'une parole révélée. En beaucoup de choses dans l'épître aux Romains, bien sûr, il a reçu non de la chair et du sang, mais de Dieu. Donc, il avait une relation à la parole, qui n'était pas seulement une proclamation de la parole, mais qui était une parole révélée, éclairée par l'Esprit. Et c'est pour ça que nous avons reçu les lettres de l'apôtre Paul. Donc vous savez, on a déjà parlé de ça, je ne vais pas trop y revenir, mais il y a l'esprit, il y a la parole qui est cette parole logos, quand on lit de la Genèse à l'Apocalypse, mais c'est important et Dieu nous demande de la connaître, mais il y a cette parole aussi rhéma. Et cette parole Réma, c'est sur cette parole qu'on doit agir. Et c'est maintenant la troisième, je vais un peu vite, hein, donc proclamation, la parole proclamée, première relation à la parole qui est la parole révélée. Donc, je peux vous poser la question, quelle est la dernière fois où Dieu vous a interpellé particulièrement par une parole que vous avez sentie pour vous? En tout cas, Dieu veut vous parler, nous parler, et faire que cette parole reste vivante. Il y a un combat par rapport à la parole, bien, nous tous, hein. Moi j'ai remarqué une chose, moins on la lit, plus on la lit. C'est un truc de dingue, et on a besoin d'entretenir, voilà. Mais vous voyez, la relation, j'aimerais vraiment souligner la diversité de relations. Donc la relation à la parole révélée, tellement important. Et donc cette parole révélée, une fois que tu as une parole révélée, la relation à la parole, c'est la foi. Je veux dire. Alors, Dieu ne nous a jamais demandé d'obéir à la parole comme texte. Imaginez, tu lis la parole de Genèse à l'Apocalypse et tu dis, je vais essayer de tout obéir, ou d'obéir à toute la parole. Jamais, on trouve ça. Si tu le fais, tu tombes sur ce qu'on appelle la malédiction de la loi. Parce que la parole, c'est pas un texte. La parole, c'est pas seulement un texte. C'est une parole, c'est un texte éclairé par l'Esprit. L'Esprit parle par la parole. Et nous avons besoin de l'Esprit pour lire la parole. Donc jamais la parole sans l'Esprit. Et c'est ça qui est vraiment important. Donc on a besoin de la foi dans cette parole, la foi dans une parole particulière que Dieu nous donne. En fait, on ne reçoit rien sans la foi. Tout à l'heure, on a proclamé, Alain nous a parlé par rapport à la guérison, on a besoin d'entraîner régulièrement notre foi, on a des cas difficiles qui durent depuis longtemps dans l'Église et il n'y a pas de percée, mais mes amis, ce n'est pas le moment de baisser les bras dans les différents domaines. C'est par la foi, Hébreux 11, que nous reconnaissons que le monde a été formé par la parole de Dieu, en sorte que ce qu'on voit n'a pas été fait de choses visibles. Et rappelez-vous, les disciples, ils jettent les filets sans arrêt, ils n'ont rien du tout. Et puis ensuite il dit, mais sur ta parole, et là c'est Réma, sur ta parole là que tu m'as dit maintenant, eh bien je vais jeter les filets. Et c'est là que ça a marché. Donc c'était des hommes qui étaient remplis de la parole, ils la connaissaient, et ça ne marchait pas. Ils avaient confiance en Dieu, mais ça ne marchait pas. Et une parole Réma, et ça a produit le miracle. Le miracle, c'est quoi? C'est l'obéissance à une parole Réma. C'est ça le miracle. Et on a besoin vraiment de miracles et donc de paroles réma dans notre vie, éclairées par l'Esprit. Le quatrième, donc proclamation, ensuite on a dit la parole qui est la parole globale, Dieu qui parle et qui veut qu'on ait la parole qui soit la parole réma, la parole révélation. Ensuite une parole, la relation avec la parole qui est une relation de foi, sinon il n'y a rien qui se passe. Et puis la parole qui est objet d'obéissance. Donc on est appelé, l'obéissance elle est relationnelle. On n'obéit pas à un texte, on obéit au Seigneur. Et le Seigneur, c'est la parole. Donc, c'est quand même différent. Je ne suis pas là à obéir à des textes. j'obéis au Seigneur. C'est, moi, je trouve que c'est très important à souligner, à ressouligner. Et il y a deux exemples qui sont frappants dans les Écritures pour illustrer courtement ce point. Vous prenez par exemple lorsque Dieu dit à Abraham de sacrifier son fils, nulle part dans la loi, il est dit, tu dois sacrifier ton fils. Nulle part dans les Écritures, vous avez ça. Ça n'existe pas. Il n'a pas obéi à un texte. Il a obéi à une parole réma. C'est quand même intéressant. Et quand il est dit, par la foi, Rahab, la prostituée dans les murs de Jéricho, qui a menti aux gardes qui venaient pour dire, est-ce qu'il y a des espions chez toi? Elle les a planqués. Eh bien, cette femme, elle est dans la lignée des héros de la foi. Et donc, elle n'a pas obéi à un texte. La Bible ne nous dit pas qu'il faut mentir. D'accord? Mais elle a menti. Elle a menti parce qu'elle avait foi en Dieu et que Dieu voulait sauver le peuple juif. Et donc, ces gens qui voulaient massacrer ce peuple, se défendre aussi, eh bien, elle a été l'instrument du salut. Donc, vous voyez les exemples de ce qu'on appelle l'obéissance de la foi, l'obéissance à la parole. Ce n'est pas une obéissance à un texte seulement. Il faut connaître le texte. Mais il y a un moment, Dieu dit, c'est à moi que tu dois obéir. En fait, le légalisme vient de ce qu'on ne veut pas payer le prix d'une relation. Alors, la relation, c'est plus qu'un texte. C'est facile de prendre un texte et de dire, il faut. Donc, Dieu veut une relation. Voilà. La relation à la parole et l'obéissance à la parole, l'obéissance de la foi, c'est une obéissance à une personne. Voilà. Et puis, la parole, relation à la parole, une autre relation, c'est la nécessité d'incarner la parole. Et donc, la parole, c'est une semence qui prend son effet, qui grandit jusqu'à ce qu'il y ait une incarnation. C'est le résultat ultime de la parole en nous. Donc cette graine, alors vous connaissez l'histoire des terrains, il y a des mauvais terrains, il y a les inquiétudes, il y a tout ça, les soucis de la vie qui empêchent cette graine de prendre. Mais dans cette parole, il y a suffisamment de puissance pour qu'on puisse incarner et produire donc ce que la Bible appelle des œuvres. C'est pas qu'on est sauvé par les œuvres, mais s'il n'y a pas d'œuvres, il n'y a pas la foi. Et c'est une foi en quoi? En la parole de Dieu. Voilà. Et puis, un autre, alors ça c'est la parole, la relation comme une parole incarnée. J'aimerais donner, j'aurais peut-être dû commencer par là, mais la relation avec la parole comme objet, si vous voulez, de connaissance. De connaissance au sens, pas seulement grec du terme, mais au sens hébraïque du terme. Et là, je trouve que c'est extraordinaire. Vous connaissez tous le psaume 119, qui est le psaume de la parole, de l'amour de la parole. Mais en fait, dans ce psaume, je vais vous lire plusieurs versets, vous allez voir ce que c'est la connaissance. Connaître la parole pour un juif, voilà ce que ça veut dire. Par exemple, verset 20. « Mon âme est brisée par le désir qui toujours la porte vers tes lois. » Intéressant, comme le désir. Je suis brisé de désir de ta parole. Ça, c'est typiquement dans la tradition juive, mais aussi la tradition chrétienne. Et on va voir ce que ça veut dire. Conduis-moi dans le sentier de tes commandements, car je l'aime. J'aime le sentier de tes commandements. Psaume 119, 48. Je lève les mains vers tes commandements que j'aime. Je veux méditer tes statuts. Psaume 119, moi, je fais mes délices de ta loi. Ensuite, verset 127, c'est pourquoi j'aime tes commandements plus que l'or et que l'or fin. Psaume 119, verset 165, 166, il y a beaucoup de paix pour ceux qui aiment ta loi. Il ne leur arrive aucun malheur. J'espère en ton salut, ô éternel, et je pratique tes commandements. Mon âme observe tes préceptes, je les aime beaucoup. Souvent, quand on lit le Nouveau Testament, on a l'impression que le judaïsme, c'était simplement obéir à des textes et à des lois. En fait, c'est faux. C'est une mauvaise compréhension du véritable judaïsme, qui est un amour de Dieu et un amour de la loi. Alors, bien sûr, il y a eu un légalisme, et comme dans les milieux évangéliques, hein, comme dans les milieux protestants, il y a aussi des tendances légalistes, mais dans le milieu juif aussi. Mais la première église était entièrement juive. Et puis, elles aimaient le Seigneur et elles aimaient sa parole. Donc, en fait, la véritable connaissance, c'est aimer. C'est ça. Quand on dit la relation à la parole, la relation à la connaissance de la parole, en fait, c'est une relation d'amour. Je ne peux pas connaître sans aimer. Et là, on le voit ici, donc cette pratique de ce désir de la parole. Et d'ailleurs, la Torah, elle est comparée à quoi? Dans la relation avec la Torah chez les Juifs, ça vous dit quelque chose? Cette relation d'amour, ça va jusqu'où? Il danse avec la Torah, qui est donc le symbole d'une femme avec qui on danse, l'épouse, enfin l'époux et l'épouse qui dansent ensemble. C'est ça l'idée. L'idée, c'est que je suis fiancé, je suis marié à la parole. Donc c'est vraiment une relation qui nous parle d'intimité, qui nous parle d'amour, qui nous parle de désir, et c'est assez extraordinaire cette relation-là. Donc je pense que là, il y a tout un... Je pense une voie à redécouvrir qui est cette voie de cet amour-là. Et pourtant, c'était avant Jésus, bien avant Jésus. Mais comme Jésus, il est la parole. Cette parole, déjà avant que Jésus vienne, parle de lui, tout parle de lui. Donc il est évident qu'il y avait quelque chose de la relation avec le Fils qui était entreaperçu de loin, mais qui était saisi. Quelque chose, d'où cet amour pour la parole. Et puis maintenant, une autre relation à la parole, et j'aimerais plus appuyer là-dessus, je ne vais pas être très long, mais appuyer dessus, c'est ce qu'on appelle la parole, la méditation de la parole. En fait, on aurait pu le dire dans la parole, connaître la parole. Connaître la parole, c'est connaître le logos, c'est la lire, c'est l'étudier. Je rappelle que étudier, c'est le même mot que adorer. En yiddish, dans la tradition juive, c'est quand j'étudie, j'adore. Quand j'étudie la Bible, j'adore. Mais la méditation. Et là, en tant que Josué, on se rappelle, en tant qu'église Josué, le personnage de Josué. Et quand même, on connaît tous ce texte, Josué 1, 6 à 8. J'aimerais qu'on le relise simplement. Fortifie-toi, prends courage, car c'est toi qui mettras ce peuple en possession du pays que j'ai juré à leur père de leur donner. Fortifie-toi seulement et bon courage en agissant fidèlement selon toute la loi que Moïse, mon serviteur, t'a prescrite. Ne t'en détourne ni à droite ni à gauche, afin de réussir dans tout ce que tu entreprendras. Que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Là, on retrouve l'idée de la proclamation, un livre qui ne s'éloigne pas de la bouche. Pour nous occidentaux, c'est bizarre. Mais c'est ça, qui ne s'éloigne pas. Ce livre, tu dois le dire. Médite-le jour et nuit. Donc c'est là qu'on en vient à la méditation, pour agir. Donc le but de la méditation, c'est l'action. Ça c'est très hébraïque toujours. Je médite pour agir. Je ne médite pas pour méditer. Le but c'est l'action. Donc pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit, car alors tu auras du succès dans tes entreprises, c'est alors que tu réussiras. Regardez quand même le contexte. Josué, ça fait 40 ans qu'il a côtoyé Moïse. Josué, il allait dans la tente... même après Moïse, la pratique de la présence de Dieu et de la parole, il l'avait depuis 40 ans. Et voilà qu'à ce baroudeur de la parole, on peut dire, à ce guerrier expérimenté, Dieu lui redonne comme un béaba, médite la parole jour et nuit. Est-ce qu'il avait besoin de réentendre ça, lui qui l'a pratiqué toute sa vie, lui qui était au contact de Moïse, lui qui la connaissait cette parole? Dieu lui redit, tu vas la méditer jour et nuit. Et je pense que en rentrant dans ce pays de Canaan, il y a de l'action, il y a des décisions à prendre, il y a un peuple à gouverner, il y a des tas de choses à faire. Et le piège peut-être, c'était justement de faire et de plus avoir ce temps de méditation. Alors le temps de la méditation, c'est donc, ça commence par dire la parole. Je reste sur un texte, je reste sur un verset, et je le prononce, et je le dis, et je le rumine. C'est Romains 18, la parole est près de toi, dans ta bouche et dans ton cœur, Deutéronome 30, versets 11 et 14. Donc ça, c'est toute la tradition juive, mais aussi la tradition chrétienne. Méditer la parole, pour un juif, comme pour les premiers chrétiens, c'est étonnant, mais c'était l'apprendre par cœur. Alors moi, je suis bien mauvais dans l'apprentissage par cœur. Alors vous allez me dire, mais alors pourquoi tu en parles? Je me prêche à moi-même, mais je me dis, nous sommes vraiment dans un défi de revenir. Quand on dit revenir à la première église, quand on voit les miracles, les prodiges, etc., un des éléments clés de cette profusion de l'esprit, c'était cette capacité de mémoriser la parole et de pouvoir la dire. Je rappelle que les évangiles que nous avons, là, quand vous prenez votre Bible, prenez l'évangile de Marc, il n'a pas été écrit avant les années, par exemple, 68. Donc Jésus est mort en l'an 33, et l'évangile a été écrit en l'an 68. Qu'est-ce qui s'est passé entre les deux? Eh bien, entre les deux, on récitait. on le connaissait par cœur. On connaissait par cœur. Et ce par cœur, c'était une tradition depuis ancestrale. Et donc les premiers chrétiens connaissaient par cœur. Ils ne voyaient pas pourquoi il fallait écrire. Parce que le texte était connu, les évangiles, même les épîtres, on les connaissait, on les lisait, on les mémorisait. C'était impressionnant. J'aimerais citer un texte du IIIe siècle. Il s'agit de Clément d'Alexandrie. Et il parle de Pierre, l'apôtre Pierre. Comment il faisait ? L'apôtre Pierre, lorsque Pierre eut catéchisé, ça veut dire eut prêché, publiquement la parole à Rome, et récité l'évangile sous l'inspiration de l'Esprit. Donc la prédication de Paul, c'était du par cœur, il récite l'évangile. C'était ça. Voilà. Avec l'inspiration de l'Esprit Saint, beaucoup de ses auditeurs exhortèrent Marc, qui depuis longtemps l'accompagnait, c'est le traducteur, hein, et qui savait par cœur les récitations, il s'agit des paroles, les épîtres, les lettres, etc., les prophètes, tout ça, à mettre par écrit ce qu'il avait répété. Marc écrivit donc son évangile et le donna à ceux qui le lui demandaient. Ce qu'ayant appris, Pierre ne s'opposa pas au dessein de son disciple, mais ne fit rien non plus pour l'encourager. Pourquoi ? Parce que la tradition s'était mémorisée. Et donc on se disait, si on écrit, et que ça va être au détriment de la mémorisation, vaut mieux pas écrire. Et en fait, là on voit, Pierre ne l'a pas encouragé, il ne l'a pas découragé. Vous voyez ? Donc ça c'est un écrit donc, de Clément d'Alexandrie. Donc la tradition des siècles après, les premiers siècles, c'était connaître par cœur. J'aimerais qu'on regarde ensemble dans Jonas chapitre 2. Vous vous trouvez dans une grosse galère, comme Jonas. Soudainement, vous vous trouvez dans une grosse épreuve. Et on voit la réaction de Jonas. Il se retrouve donc dans les... Il est jeté du navire, rappelez-vous, il doit aller à Ninive. Il sait très bien que Dieu est un Dieu miséricordieux qui va accorder le pardon à cette ville si elle se repent. Mais lui, il ne veut pas que cette ville se repente parce qu'elle a fait trop de mal au peuple d'Israël. Donc il ne veut pas y aller. Il ne veut pas y aller. Alors il se barre sur un bateau, une tempête arrive et tout le monde, c'est la catastrophe. Et il reconnaît que c'est lui le problème et il dit au capitaine, mais il faut me jeter du navire et vous verrez, il n'y aura plus de tempête. Il le jette du navire et il n'y a plus de tempête. Et il se retrouve dans le ventre d'un poisson. Vous avez remarqué ce qu'il fait ? Il commence à prier. Regardez, Jonas 2:2. Jonas, dans le ventre du poisson, pria l'Éternel son Dieu. Il dit, dans ma détresse, j'ai invoqué l'Éternel et il m'a exaucé. Du sein du séjour des morts, j'ai crié et tu as entendu ma voix. Vous pensez que c'est une parole qui vient de lui. Il invente parce qu'il est dans la... Il est en train de citer un psaume. Il cite le psaume 86, verset 13. Tu délivres mon âme du séjour du profond des morts, etc. Donc en fait, la réaction à l'épreuve, je cite la parole immédiatement. Voilà, Genèse 2:3. Tu m'as jeté dans l'abîme, dans le cœur de la mer, et les courants d'eau m'ont environné. Toutes tes vagues et tous tes flots ont passé sur moi. Psaume 42. Éternel Dieu de mon salut, je crie le jour et la nuit devant toi, que ma prière parvienne en ta présence. Prête l'oreille à mes supplications, car mon âme est rassasiée de maux. Ma vie s'approche du séjour des morts. Je suis mis au rang de ceux qui descendent dans la fosse. Je suis comme un homme qui n'a plus de force. Je suis étendu parmi les morts, semblable à ceux qui sont tués et couchés dans le sépulcre, à ceux dont tu n'as plus le souvenir et qui sont séparés de ta main. Tu m'as jeté dans une fosse profonde, dans les ténèbres, dans les abîmes. Ta fureur s'appesantit sur moi. Tu m'accables de tous tes flots. Il cite le psaume. Impressionnant. Par cœur. Il n'est pas allé dans le ventre du poisson. Il faut que je cherche mon texte, ma tablette. Mais mince, je ne l'ai pas. Je n'ai pas mon portable. Comment je vais faire ? Alors je vais crier, Seigneur, au secours, au secours. Dieu entend aussi ça. Mais quand il y a une parole qui est proclamée, mes amis, c'est autre chose. Genèse 2:4. Je disais, je suis chassé loin de ton regard, mais je verrai encore ton Saint-Temple. Psaume 5:7, il cite. Mais moi, par ta grande miséricorde, je vais à ta maison. Je me prosterne dans ton Saint-Temple avec crainte. Jonas 2:6, il continue sa prière. Je suis descendu jusqu'aux racines des montagnes. Les barres de la terre m'enfermaient tout pour toujours, mais tu m'as fait remonter vivant de la fosse, mon Dieu. Là, il cite plusieurs psaumes. Le 18:5, les liens du sépulcre m'avaient entouré, les filets de la mort m'avaient surpris. Psaume 116:3, les liens de la mort m'avaient environné, les angoisses du sépulcre m'avaient saisi, j'étais en proie à la détresse et à la douleur. Et ensuite, vous avez une image de la résurrection qu'on trouve dans beaucoup, le psaume 18 par exemple, que Jonas cite, « Quand mon âme était abattue au-dedans de moi, je me suis souvenu de l'Éternel. et ma prière est parvenue jusqu'à toi. » Et là, c'est le psaume 18:6 qui cite. « Dans ma détresse, j'ai invoqué l'Éternel, j'ai crié à mon Dieu, et dans son palais, de son palais, il a entendu ma voix, et mon cri est parvenu à ses oreilles. » Et on peut continuer, là, il y a beaucoup d'autres textes, je vais vous faire grâce de toutes les citations. Moi, je les ai recherchées, là, cette semaine, je me suis dit, mais c'est impressionnant. Genèse 2:9, « Pour moi, je t'offrirai des sacrifices avec un cri d'action de grâce. » Il est dans le ventre hein, du poisson. Il est au bord de la mort et du gouffre. Et il continue à psalmodier. Et les psaumes, parfois ça commence mal, mais ça finit souvent bien dans le sens « Seigneur, je choisis de te louer, j'offrirai des sacrifices. » C'est le psaume 3:8, « Le salut est auprès de l'Éternel, que la bénédiction soit sur son peuple, offre pour sacrifice à Dieu des actions de grâce. » Psaume 50, etc. Donc vous remarquez, le réflexe, c'est la citation des Écritures. C'est une prière nourrie des Écritures qui sont dans son cœur. La prière de Daniel, c'est pareil. Vous prenez par exemple dans Daniel 9, Daniel qui prie, et puis le début de sa prière, il cite Deutéronome 7:9. « Ce Dieu fidèle garde son alliance, sa miséricorde, jusqu'à la millième génération envers ceux qui t'aiment, qui observent tes commandements. » Donc il cite la parole à Dieu. « Voilà qui tu es, voilà ce que tu as dit, Seigneur. » Et c'est comme ça qu'il commence son intercession. Un autre texte qui est un des plus qu'on a chanté tout à l'heure, si vous avez fait attention. Tout à l'heure, on a chanté, entre autres, le Cantique de Marie. Et c'est dans l'Évangile de Luc, au chapitre 1, 46, versets 46-55. On va le lire ensemble. Et vous allez là une démonstration qu'une jeune fille, Marie, hein, une jeune fille d'un milieu très modeste, qui n'a pas fait de grandes écoles, qui n'a pas fait de grandes études, elle connaissait les Écritures par cœur. Et donc, quand elle prie, elle dit, Marie, elle dit, « Mon âme exalte le Seigneur, mon esprit se réjouit en Dieu mon Sauveur, parce qu'il a jeté les yeux sur la bassesse de sa servante. » Alors, « Mon âme exalte le Seigneur », c'est les psaumes, en particulier le psaume 34:4, « Exalte avec moi l'Éternel, célébrons son nom. »« Mon esprit se réjouit en Dieu mon Sauveur », Habacuc 3:18. « Toutefois, je veux me réjouir en l'Éternel. » Je veux me réjouir dans le Dieu de mon salut. Hein. Parce qu'il a jeté les yeux sur la bassesse de sa servante. Psaume 31:8. Je serai par ta grâce dans l'allégresse, dans la joie, car tu vois ma misère et les angoisses de mon âme. Et elle continue comme ça. C'est impressionnant. Vous prenez toutes les prières de la Bible. C'est toutes des citations des Écritures. Et c'est ce que je voudrais signifier ce matin, souligner. Voici désormais toutes les générations me diront bienheureuse. Parce que le Tout-Puissant a fait pour moi de grandes choses. Et là, c'est le psaume 71:19. Tu as accompli de grandes choses. Qui est semblable à toi? Elle continue. Son nom est saint, sa miséricorde s'étend d'âge en âge sur ceux qui le craignent. Ça, c'est le psaume 111. C'est le psaume 103. Voyez, donc elle prend le stock dans son cœur. Il y a les Écritures. Elle s'adresse à Dieu et elle puise dans le stock des Écritures. Et le Saint-Esprit, bien sûr, le Saint-Esprit, il prend dans le stock de sa mémoire et il utilise la parole pour en faire quelque chose de renouvelé. C'est un cantique nouveau, mais qui n'est pas nouveau en même temps. Voyez, voilà. Il a déployé la force de son bras, psaume 89. Hein. Tu dispersas tes ennemis par la puissance de ton bras. Voilà. Il a dispersé ceux qui avaient dans le cœur des pensées orgueilleuses. Il a renversé les puissants de leur trône. Il a élevé les humbles. Ésaïe 13, par exemple, « Je ferai cesser l'orgueil des hautains, j'abattrai l'arrogance. » Ésaïe 5, « Les petits seront abattus, les grands humiliés, et le regard des hautains sera abaissé. » Voilà. Et puis, « Il a rassasié de bien les affamés. » Elle continue comme ça. « Il a renvoyé les riches à vide, il a secouru Israël. » Et ça, c'est le cantique. Alors ça, c'est impressionnant. Elle reprend le cantique d'Anne à la sortie d'Égypte. Non, pas d'Égypte. 1 Samuel 2, lorsque Anne est avec le prophète Samuel et qu'elle a cet enfant qu'elle attendait tant, elle priait, elle dit « Mon cœur se réjouit en l'Éternel, ma force a été relevée par l'Éternel, ma bouche s'est ouverte contre mes ennemis, car je me réjouis de ton secours. Nul n'est comme l'Éternel. » Donc ça, c'est 1 Samuel chapitre 2, tout le cantique d'Anne. Des siècles après, Marie, voilà, elle restitue une partie de ce cantique. Donc ça souligne bien que dans l'Orient ancien, dans le judaïsme dans lequel est venu Jésus, Il est venu dans la culture de ce peuple juif qui était pétri des Écritures. Et la première église, c'était des Juifs qui connaissaient ces Écritures. Voyez. Donc ça, je dirais, même les dernières paroles de Jésus, « mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» Citation du psaume 22. Et quand vous lisez le psaume 22, il continue comme ça. « Toutes les extrémités de la terre penseront à l'Éternel, se tourneront vers lui. Toutes les familles des nations se prosterneront devant sa face, car à l'Éternel appartient le règne, il domine sur les nations. » Vous vous rendez compte? Il a cité les Écritures, lui qui est la parole vivante. À combien plus forte raison nous sommes appelés sur son sillage, dans nos moments de combat, dans nos moments parfois de détresse, dans nos moments de joie, à citer les Écritures. Pour ça, au niveau de la louange et de l'expression de la louange aussi, surtout la notion de louange prophétique, imaginez des chantres qui connaissent les Écritures et qui puissent, dans les temps prophétiques, libérer des portions entières en chantant des Écritures. C'est ce qu'on appelle psalmodier. Et moi, je crois que le problème, c'est que parfois nous sommes dans l'esprit et très vite, quand on rentre dans l'esprit, on reste pauvre au niveau du texte et des paroles. C'est-à-dire que je t'adore. Et c'est vrai que c'est des paroles qui... On peut rester sur « Je t'exalte, Jésus », comme on l'a fait tout à l'heure. Mais on peut aussi rentrer dans des moments où on commence à citer les Écritures. À citer, par exemple, Colossiens 2, qui parle de la magnificence de Jésus. À citer Jean chapitre 1, le prologue. Il y a comme ça des textes que vraiment on peut nous invite à apprendre. Donc les paroles de Jésus, impressionnant. Donc, et est-ce que vous savez que la Bible elle-même a été écrite de façon à être mémorisée? La structure même des Écritures nous dit que l'intention de Dieu, c'était qu'elle soit apprise en particulier au niveau des psaumes. En particulier, vous avez, alors c'est dans l'hébreu, mais vous avez des allitérations répétées, c'est-à-dire des sonorités qui reviennent à intervalles réguliers, comme des trucs mémotechniques. Vous avez aussi des poèmes alphabétiques, et vous en avez plusieurs. En particulier, le plus connu, c'est le psaume 119. Chaque verset qui commence par une lettre de l'alphabet. Et ça recommence comme ça, chaque fois. Donc, ce sont des techniques ancestrales pour qu'on mémorise et qu'on fixe la parole. Le psaume 31, le proverbe 31, c'est fait comme ça aussi. Il y a 8 psaumes qui sont alphabétiques en particulier. Donc c'est des et les psaumes, ils n'étaient pas lus, ils étaient chantés. Et quand on sait que le chant, c'est une façon de mémoriser, on comprend que la tradition juive, ils aient eu des facilités parce qu'ils avaient des techniques de mémorisation. Les chercheurs au niveau aujourd'hui, il y a des études qui ont été faites sur la mémoire dans l'Antiquité. Alors c'était pas que le peuple juif qui mémorisait, c'était assez général. Donc ils mémorisaient comme un palais avec des pièces, avec des tiroirs, des meubles, des chambres, et ils stockaient les éléments de leur mémoire. Au niveau visuel, ils retraçaient le chemin et ils arrivaient à retrouver des choses parfois enfouies. Il y a un témoignage historique. Vous savez que les Juifs ont été éparpillés. Un moment, ils ont été exilés. Et puis le livre, il y a un rabbin qui rappelle, je l'ai peut-être déjà dit ici, mais qui rappelle que le livre d'Esther, ils avaient perdu le rouleau d'Esther. Tout le livre d'Esther, il a été perdu. Et puis ce rabbin, dans la salle de classe, c'était une synagogue, il demande aux enfants de reconstituer le livre, et ils l'ont reconstitué le livre entier sans problème. Une mémoire collective, c'est pour vous montrer que voilà, l'écrit, c'était important, mais c'est que tardivement. En tout cas, l'écrit n'a jamais été au détriment de la mémorisation. C'était ça. Alors heureusement qu'il y a eu l'écrit, voyez. Mais moi je crois que, il me semble, que surtout dans la culture dans laquelle on vit, une culture de mort, une culture de laideur, une culture de peur, de crainte, d'impureté, eh bien, il y a besoin de mettre dans notre cœur quelque chose de différent. Il y a besoin de stocker une manne différente qui est la vérité, qui est, qui célèbre le beau, le bien, le juste. Et ça, c'est, je pense qu'il n'y a pas de pensée renouvelée possible sans contact régulier avec les Écritures. Donc on peut, ça serait formidable. Vous voyez, on vient vers le Seigneur, on dit « Seigneur, renouvelle mon intelligence, Seigneur. Vraiment, renouvelle-la. » Mais je veux dire, ça serait super comme prière. Mais ça ne marche pas. Parce que Dieu dit « Offre ta vie, va avec les Écritures. » Nourris-toi de ces Écritures. Et petit à petit, il y a ce renouvellement. Alors Dieu commence, il utilise sa parole pour faire ce renouvellement. Voyez. J'ai retrouvé dans l'histoire de l'Église, nous sommes le 12 février 304. Et c'est dans une ville de Grèce, non loin de Carthage. Il y a 48 chrétiens donc, qui se réunissaient dans les maisons. Donc vous voyez, c'était des maisons. Ce qu'on appelle les maisonnées, ça pouvait aller jusqu'à 48, 50 chrétiens. Mais le problème, c'est que c'était interdit. Les réunions étaient interdites. Voilà. Donc, on a le procès écrit de cette maisonnée. Et c'est intéressant parce que c'était dans la ville d'Abitène. Et donc, on sait que c'est tout à fait historique. Donc, il prend toute la maisonnée, là, hop, au tribunal. Et donc, on a le discours entre le proconsul et puis le Saturnin. C'était le prêtre Saturnin, c'est un moment. Alors, le proconsul, tu as contrevenu aux édits de l'empereur en réunissant ces gens ? Saturnin, nous ne pouvons pas omettre la célébration du dimanche, c'est la loi. Voici, donc le proconsul qui dit, y a-t-il eu des assemblées interdites chez toi ? Et il dit, le chrétien répond, « Oui, nous avons célébré le jour du Seigneur. » Le proconsul répond, « Il ne fallait pas accueillir les gens. » Émérétus dit, « Je ne puis pas ne pas accueillir mes frères. » Faut quand même le faire. Hein. Nous sommes dans un contexte. Le proconsul, « As-tu des livres, des saintes écritures dans ta maison ?» C'est interdit. Émérétus, « Je les possède, mais dans mon cœur. » Le proconsul, en as-tu dans ta maison, oui ou non ? Émérétus, je les porte dans mon cœur. Il se fait tard et le proconsul les fait jeter en prison. Donc, juste dans ce passage historique, vous avez l'idée d'une célébration dans une maison. Il n'y avait pas le texte, mais c'était connu par cœur, les Écritures. Et c'était prêché à partir d'une connaissance par cœur des Écritures. Voilà un exemple historique. Nous sommes des siècles après le début du christianisme. C'est quand même impressionnant ce qu'on peut voir ici. Je vous avais déjà parlé, je ne vais pas le revoir ici, mais l'histoire de Saint Patrick, ce jeune homme qui a mémorisé les Écritures, qui s'est fait kidnapper en Irlande, qui s'est remémoré tout ce qu'il a appris. Par différents miracles, il est retourné dans son pays natal pour retrouver la liberté. Dieu l'appelle en Irlande de nouveau, chez ses persécuteurs. Donc, la délivrance a commencé comment ? Quand esclave, kidnappé, loin de tout, il se remémore les Écritures. Et là, la délivrance commence. Dieu qui lui parle et qui lui dit « Tu vas t'échapper. Et voilà ce que tu vas faire. » Tac, tac, tac. Et c'est reparti. Et donc, c'est comme ça que nous, en Alsace, on a été évangélisés. Indirectement. Parce que ces moines irlandais, c'est grâce à Patrick. C'est grâce à un jeune homme qui avait appris les Écritures, qu'ils avaient rejeté. Entre temps, il avait rejeté la foi, hein. Mais c'était resté dans son cœur. Et le jour où c'est ressorti, ça fait un homme de Dieu qui a changé l'Irlande et qui a ensuite les Irlandais qui ont implanté Abbaye de Murbach, Saint-Gall, toute la vallée, beaucoup de lieux en Suisse et en Alsace. Ça a commencé par la mémorisation des Écritures. Au 5e siècle après Jésus-Christ, vous avez par exemple la règle de Saint-Benoît, c'était les moines à l'époque, et donc les 150 psaumes étaient récités chaque semaine. Donc ils avaient un tournus comme ça, et donc on récitait par cœur les 150 psaumes chaque semaine. Et en fait, quand c'était en hiver, on mettait la bouchée double, on y allait encore plus. Donc il est évident que cette parole faisait partie de la vie, si vous voulez. Pourquoi il y a une culture chrétienne au Moyen-Âge ? C'est pas seulement parce qu'il y a des rois chrétiens et tout ça, non. C'est parce que la parole avait une place importante. Alors bien sûr, il y a eu n'importe quoi aussi parfois. Il y a eu du religieux, il y a eu du légalisme, mais de façon générale, l'attachement aux Écritures était tel qu'il a transpiré sur toute la culture. Martin Luther, juste une citation. Je vais te dire du mieux que je peux comment je prie personnellement. D'abord, quand je sens que je suis devenu tiède et sans joie dans la prière, à cause d'autres tâches ou pensées, puisque la chair et le démon entravent et gênent toujours la prière, je prends mon petit psaumetier, je me hâte vers ma chambre, et dans le temps qui m'est imparti, je me dis doucement, mot pour mot, les 10 commandements, le credo, et si j'ai le temps, quelques mots du Christ ou de Paul, ou quelques psaumes, comme le ferait un enfant. Donc en fait, Luther connaissait les Écritures aussi. Alors, peut-être pas totalement, mais en tout cas, il connaissait beaucoup par cœur. Les réformateurs également. On sait Calvin, etc., ils connaissaient les Écritures en large portion. Donc vous voyez, toute cette histoire pour vous dire que nos relations avec les Écritures, la proclamation c'est une chose, mais si tu proclames à partir de ce qui est dans ton cœur aussi. Donc, alors si tu as le texte sous toi, c'est très bien. Tu peux proclamer, mais c'est encore plus puissant si la parole habite en toi. Et que ce que tu dis, c'est l'expression de ce qui est dans ton cœur. Parce que parfois, on peut arriver à une proclamation qui n'est pas en phase avec ce que notre cœur... Alors, c'est bien, la vérité continue... c'est notre cœur qui doit s'aligner, si vous voulez. Mais vraiment, le Seigneur nous encourage dans les temps que nous vivons, cet été, etc., ou des temps qui sont quand même des temps particuliers. Je pense à des sécheresses qui sont aussi des sécheresses spirituelles aussi dans le pays, dans les nations. Je pense que Dieu veut lever un peuple de sa parole et un peuple à qui il dit, Jean 15:7, et je termine là, si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, demandez ce que vous voudrez et cela vous sera accordé. C'est impressionnant quand même. C'est impressionnant que l'exaucement, est-ce qu'il est lié à une parole qui demeure dans notre cœur? Eh bien, oui, si vous demeurez en moi, demeurez en Jésus, qui est la parole, et que mes paroles demeurent en vous. Donc, vous voyez, nous souvent, voici, je demeure en toi, je veux demeurer en toi, Jésus. J'accueille ta présence, je rentre dans ta présence. Mais Dieu dit, je veux que ma parole, elle demeure en toi, elle fasse sa maison dans ton cœur. Et quand on sait que c'est du cœur que viennent toutes les sources de la vie, il est bien évident que si on rentre dans notre cœur la vérité, eh bien, elle peut influencer toute notre vie. C'est une discipline. C'est une discipline que Dieu nous aide en tant que communauté à aimer cette parole, à être attaché, à commencer à mémoriser. Alors, moi, il y a des psaumes, je sais qu'au milieu de nous, il y en a qui connaissent certains psaumes, par exemple le psaume 23, etc. Il y a aussi, moi je vous conseille Colossiens chapitre 2, Philippiens 2 aussi, lorsqu'il est parlé en quelques versets du Christ qui est descendu au milieu de nous, qui s'est fait homme, qui s'est abaissé, c'est pourquoi Dieu l'a élevé. Jean chapitre 1, la parole était avec nous, elle était faite chair, elle est descendue mais les siens ne l'ont pas reçue, elle est la lumière qui éclaire tout homme. On a besoin de réactiver Éphésiens chapitre 1 par exemple aussi. Donc, voyez, moi je veux nous encourager à continuer à proclamer cette parole, comme Nadine nous l'a rappelé, et puis commencer à méditer cette parole dans le sens à remplir nos cœurs, à pouvoir dégainer ensuite, et que nous ayons pas seulement des pistolets à 6 coups, mais que nous ayons plus de cartouches que les 6 coups, et qu'on puisse dégainer. Et je suis sûr que cette arme, elle est puissante dans les temps dans lesquels nous vivons. Alors ne nous décourageons pas. C'est que pour un enfant, c'est beaucoup plus facile d'apprendre. C'est pour ça, dans les écoles chrétiennes, un de mes rêves, c'est que vraiment un élève qui sort de CM2, il connaisse les Écritures. Alors, c'est pas simple. Mais on avance. On avance. Il y a des stratégies. Vous savez, les navigateurs, au niveau évangélique, ils avaient des stratégies de mémorisation des Écritures. Nous, la vieille garde, là, vous aviez des petits versets comme ça dans des cartons, des petits bouts de carton. Et puis, dans la journée, tu pouvais les prendre dans le métro, dans le bus, et puis mémoriser. Et moi, je me rappelle, au début, je trouvais ça un peu bizarre. Je disais, mais bon, nous, la Bible, on l'a, là. Je veux dire, mais après, j'ai compris. C'est pas se mémoriser pour mémoriser. Quand on comprend ce que c'est le cœur et ce que l'importance de la parole et de ce changement qu'elle fait en nous, voilà, et de l'héritage chrétien. Moi, je suis stupéfait, stupéfait. Et quand on lit des auteurs, les premiers auteurs, pas seulement les auteurs, les apôtres, mais quand vous lisez par exemple des gens comme saint Augustin ou autres, nous sommes au 4e, 5e siècle, ils connaissaient les Écritures par cœur. Un jour, j'ai pris 2-3 pages, il a écrit un livre qui s'appelle « La doctrine chrétienne », 2-3 pages comme ça, et en fait, j'ai commencé à regarder les... Il n'a pas mis les citations, mais tout ce qu'il dit, c'est pouf, 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 il prend là. C'est impressionnant, mais c'est naturel. C'est naturel. Et en fait, je me suis dit, mais en fait, c'est ça, une pensée chrétienne. C'est une pensée qui est nourrie de la parole et qui est mémorisée et stockée dans le cœur.